27.
Les arbres rabougris, se gênant mutuellement dans leur lutte pour l'espace et la lumière, sont néanmoins assez hauts pour filtrer la clarté de la lune. Deux ou trois fois, Maurice perd le sentier et se débat dans les broussailles pour essayer de le retrouver. Mais ça lui plaît bien, en fait. Il a le gargouillis du ruisseau pour le guider si vraiment il se perd. Et le sentier peu marqué lui confirme que les mômes qu'il utilise sont encore moins nombreux qu'à son époque. Maurice espère juste qu'il n'est pas en train de mettre les pieds dans du sumac vénéneux. La musique du ruisseau est toute proche quand il retrouve une dernière fois le sentier, et moins de 5 minutes plus tard, il se tient sur la rive opposée à l'arbre repère. Il s'arrête là un instant, dans la pénombre mouchetée de lune, cherchant du regard un signe quelconque d'occupation humaine. Couverture, sac de couchage, chariot de supermarché, morceaux de plastique drapés sur les branches afin de créer une tente de fortune. Il n'y a rien. Juste l'eau glougloutant sur son lit de cailloux et l'arbre incliné au-dessus de l'autre rive. L'arbre qui a fidèlement gardé son trésor pendant toutes ces années. « Bon vieil arbre !» chuchote Maurice. Et il traverse prudemment le cours d'eau. Il s'agenouille et dépose ses outils et ses sacs sur le côté afin de se livrer à un instant de méditation. « Me voici !» chuchote-t-il. Et il applique ses paumes sur le sol, comme s'il cherchait un battement de cœur. Et on dirait bien qu'il en perçoit un. C'est le battement de cœur du génie de Rothstein. Le vieil écrivain a changé Jimmy Gold en un grotesque parjure, mais qui peut dire si Rothstein n'a pas racheté Jimmy durant ses années de composition solitaire? Si c'est le cas, si, alors tout ce qu'a subi Maurice n'aura pas été en vain. Me voici, Jimmy. Me voici enfin. Il attrape la pelle et commence à creuser. Il ne lui faut pas longtemps pour atteindre la malle, mais les racines la retiennent, en effet. Et Maurice met presque une heure à les dégager à la hachette. Ça fait des années qu'il n'a plus fait de travail manuel pénible, et il est épuisé. Il pense à tous les durs qu'il a connus, Charlie Robertson, par exemple, qui faisait constamment de la muscu, et comment il les méprisait, dans sa tête jamais ouvertement, pour leur comportement qu'il jugeait obsessionnel compulsif. Il ne les méprise plus maintenant. Il a mal au dos, aux cuisses, et pire que tout, sa tête l'élance comme une dent infectée. Une petite brise s'est levée, rafraîchissant la sueur qui huile sa peau. Mais elle fait aussi balancer les branches et crée des ombres mouvantes qui l'effraient. Elle lui rappelle de nouveau MacFarland. MacFarland en train de remonter le sentier, marchant sans bruit, avec cette discrétion surnaturelle dont sont capables certains gros balèzes, soldats et ex-athlètes le plus souvent. Quand il a repris son souffle et que son rythme cardiaque s'est un peu ralenti, Maurice tend la main vers la poignée sur le côté de la malle et s'aperçoit qu'elle manque. Il se penche en avant, on appuie sur ses paumes et regarde dans le trou, regrettant de ne pas avoir pensé à emporter une lampe de poche. La poignée est toujours là, seulement elle pendouille, cassée en deux. « C'est pas normal, ça ?» pense Maurice. « Si ?» Il projette son esprit à travers le temps, essayant de se rappeler si l'une ou l'autre des poignées de la malle était cassée. Non, il pense pas. En fait, il est quasi sûr. Et puis soudain, il se souvient d'avoir posé la malle de champ dans le garage et il exhale un énorme soupir de soulagement qui fait gonfler ses joues. La poignée a dû se casser quand il a hissé la malle sur le diable. Ou alors quand il l'a trimballée jusqu'ici en se cognant à droite et à gauche tout le long du sentier. Il avait creusé le trou à la hâte et poussé la malle à l'intérieur sans ménagement. Pressé de se tailler et bien trop occupé pour remarquer un truc aussi insignifiant qu'une poignée cassée. Voilà, c'était ça. Ça devait être ça. Après tout, cette malle n'était pas neuve quand il l'avait achetée. Il l'attrape par les côtés, et la malle glisse si facilement hors du trou que Maurice en perd l'équilibre et tombe sur le dos. Il reste là, les yeux levés vers la coupe lumineuse de la lune, tâchant de se dire que non, il n'y a rien qui cloche. Sauf qu'il n'est pas si con. Il a peut-être réussi à se convaincre pour l'histoire de la poignée cassée, mais pour ça, non. La malle est trop légère. Maurice se redresse maladroitement sur son séant, des traînées de terre marquant maintenant sa peau moite. Il dégage ses cheveux de son front d'une main tremblante, laissant une autre trace noire. La malle est trop légère. Il tend la main vers elle, puis la retire. « Je peux pas, » pense-t-il. « Je peux pas. Si je l'ouvre et que les carnets sont plus là, je vais craquer. » Mais qui serait allé s'emparer d'un vieux tas de carnets? L'argent, oui, mais les carnets? Il restait même plus de place pour écrire dans la plupart d'entre eux. Rothstein en avait presque rempli toutes les pages. Et si quelqu'un avait pris l'argent et brûlé ensuite les carnets, sans comprendre leur valeur incalculable, juste pour se débarrasser d'une preuve compromettante? Non, chuchote Maurice, personne ne ferait ça. Ils sont toujours là. Il faut qu'ils y soient. Mais la malle est trop légère. Il la regarde fixement, petit cercueil exhumé, incliné sur la berge au clair de lune. Derrière, il y a le trou, béant comme une bouche qui vient de vomir quelque chose. Maurice tend de nouveau les mains vers la malle, hésite, puis bondit en avant et soulève les loquets d'un seul geste, tout en priant à un dieu dont il sait qu'il se fout des gens comme lui. Il regarde à l'intérieur. La malle n'est pas tout à fait vide. Le plastique dont il l'avait doublé y est toujours. Il le retire dans un nuage crissant, espérant que quelques carnets seront restés en dessous. Deux ou trois, ou, oh mon Dieu, par pitié, juste un. Mais il n'y a que quelques petits filets de terre dans les coins. Maurice plaque ses mains crasseuses sur son visage, naguère lisse, aujourd'hui profondément ridé, et se met à pleurer sous la lune.